Eh bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, chapitre 5, verset 1er. Le livre d'Esther, chapitre 5, verset 1er. Voilà, nous lisons donc ceci. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'elle tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Que ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. J'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin, que je leur préparerai, et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis elle envoya chercher ses amis et Zérek, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qui avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assis à la porte du roi. » Zérek, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Et cet avis plut à Aman et fit préparer le bois, la potence. Alléluia. Il y a quelques mois en arrière, si vous allez sur le site, vous verrez, ça fait plusieurs mois en arrière, vu déjà deux parties sur ce livre d'Esther. Et le thème de ma prédication à chaque fois sur ce livre d'Esther, c'est que l'avenir est en Dieu. Et je voudrais rappeler très rapidement, succinctement, malgré tout, les deux premières parties, parce que ça fait quand même quelques mois en arrière, et vous avez peut-être oublié. Esther va être, et nous aurons l'occasion d'en parler encore, Esther va être une femme exceptionnelle, parce que Elle va, avec beaucoup de courage et de foi, elle va se laisser conduire par Dieu, et ce, par l'intermédiaire de Mardoché, son oncle, afin de permettre à Israël de vivre la bénédiction de Dieu. Je rappelais, il y a quelques mois en arrière, quand on lit ce livre d'Esther, il est un fait qu'on n'y voit pas le nom de Dieu. Mais ça n'enlève rien au fait que l'on voit, malgré tout, l'action de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que ce livre a toute son importance. Et chaque fois que nous le méditons, et nous le faisons ce matin, nous nous rendons compte que, eh bien, l'avenir est vraiment en Dieu. Parce que pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, il n'y a plus d'avenir. Il n'y a qu'un seul désir dans le cœur de cet homme, Aman, eh bien, de rayer sur la carte le peuple d'Israël. Cet homme a des idées de meurtre, d'éradication. Malgré tout, et malheureusement, l'histoire de notre humanité est chargée à ce niveau-là. Dans beaucoup de pays, et même l'Europe a été touchée, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mes frères et sœurs, le but du diable, c'est d'éradiquer le peuple de Dieu. Et je ne parle pas que d'Israël, je parle de l'Église. Le but du diable, c'est de faire taire l'Église. Le but du diable, c'est d'essayer, d'une manière ou d'une autre, à faire en sorte que l'Église ne soit plus visible, qu'on ne l'entende plus, qu'elle ne soit plus remarquée, dans la société qu'est la nôtre au XXIe siècle et particulièrement en France. Mais Dieu a prévu, a des projets encore aujourd'hui pour l'Église. Voyez-vous, ce texte nous amène à réaliser que Esther est une femme en définitive, on s'en rend compte, on le devine, cette femme est une femme de prière. Et en même temps, c'est une femme qui, parce qu'elle fait confiance en Dieu, parce qu'elle se rend compte que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob tient toujours toutes choses entre ses mains, et que l'avenir pour elle et pour son peuple est entre les mains de ce Dieu créateur, alors elle va ainsi rester dans une position spirituelle qui va permettre au peuple d'Israël de sortir de cette situation compliquée. Nous avons, il y a quelques mois en arrière, par rapport aux deux premières parties, nous avons déjà souligné toutes les différences qui peuvent exister entre les sentiments et le caractère de Dieu, et puis également ceux de ce roi qui s'appelle Assuérus. Je vous invite à retourner sur le site et à écouter et à réécouter ces deux premières parties. Mais je peux et nous pouvons exploiter la scène que le Seigneur met devant nous au travers de ce texte que nous avons lu alors que Esther va paraître devant le roi, devant ce monarque qui a un droit de vie et de mort, une seule parole, quelqu'un qui doit être tué sur le champ le sera. Une seule parole, quelqu'un qu'il veut faire vivre, il vivra. Et c'était ainsi la particularité de ce roi de Perse, Assuérus. Cet homme avait un droit de vie et de mort sur tout son royaume. Et la démarche d'Esther est une démarche, et nous l'avons déjà vu il y a quelques mois en arrière, est une démarche où elle sait que de toute manière, elle peut trouver la mort. Mais elle met toute sa confiance en Dieu par rapport à la proposition de Mardoché, lui rappelant que si le Seigneur lui a permis d'accéder à la position qui est la sienne, c'est parce que Dieu veut utiliser Esther pour sa gloire et pour le bien du peuple. Je remarque donc que pour être un instrument de bénédiction pour le peuple, pour être un instrument de bénédiction pour sa famille, pour être un instrument de bénédiction pour le siècle dans lequel nous vivons, il faut être avant tout des hommes et des femmes de prière et de foi. Parce que si nous sommes des hommes et des femmes spirituels, nés de nouveau, un petit peu ici, un petit peu là-bas, on ne sait plus où on en est d'ailleurs, à ce moment-là, on ne va pas marquer notre société. Ce que Dieu veut, mes frères et sœurs, c'est que vous marquiez votre temps. C'est que vous marquiez vos enfants. C'est que vous marquiez les gens que vous côtoyez. Le Seigneur va nous parler ainsi au travers de ce témoignage. Et quand elle paraît devant le monarque, devant ce roi Assuérus, c'est symbolique pour nous. Il y a un symbolisme formidable par rapport aux attitudes à avoir pour que, j'insiste, Dieu puisse exaucer nos requêtes. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « mais Dieu ne m'exauce plus ». Il faut se poser des questions alors. Au jour du malheur, réfléchis. Rentre en toi-même. Juge-toi, personnellement. Sors ton regard de tous les autres. Rentre en toi-même. Réfléchis à ta situation. Et réfléchis avec sérieux, avec honnêteté. Le Seigneur veut exaucer nos prières. Sinon, vous allez vous fatiguer, vous allez vous ruiner spirituellement, parce que vous allez dire, mais quand je prie, Dieu ne répond pas. Dieu répond, je suis désolé. Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu intervient encore aujourd'hui parce qu'il est vivant, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peut-être vous, peut-être nous qui avons changé, mais pas Dieu. Pas le Saint-Esprit, pas les promesses de Dieu, pas ce que Dieu veut faire. Donc nous avons un symbolisme spirituel, une attitude pour recevoir une réponse. Et l'approche que je vais appeler d'une manière très théologique, l'approche typologique, symbolisme, une typologie, un type, c'est-à-dire ça nous ramène toujours à une démarche vers Christ dans la Nouvelle Alliance par rapport à ce que nous découvrons dans l'Ancien Testament. Donc l'approche typologique, je dirais symbolique, de cette situation d'Esther devant ce monarque, donc est fort riche en enseignements, et je vais les souligner. La Bible nous dit, nous l'avons lu tout à l'heure, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Premier point important. Elle va mettre des vêtements royaux. La traduction à la Colombe dit, elle va revêtir les insignes de la royauté. Quelqu'un a la traduction à la Colombe, il peut vérifier. Elle revêtit les insignes de la royauté. Elle va mettre ce qui est visible sur ce point-là. Et ses vêtements lui ont été remis à cause de quoi ? À cause de cette qualité qui est la sienne, parce qu'elle est épouse du roi. Et quand elle va se présenter devant le roi, elle ne va pas y venir d'une manière négligée. Elle ne va pas y venir n'importe comment. Elle ne va pas se positionner devant lui de n'importe quelle façon. On parlait un petit peu vendredi, je n'ai pas terminé sur le sujet, par rapport à la manière dont nous sommes vêtus spirituellement, un revêtement, un vêtement de salut pour s'approcher de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu comme ça. La première fois, je crie vers Dieu parce que je suis pécheur, je reconnais mon péché. Mais en même temps, après, le Seigneur agit, mais il m'amène à autre chose. À me laisser revêtir et à rester habillé de ce vêtement de salut et de grâce. Et cette femme, Esther, elle ne vient pas n'importe comment devant ce monarque, devant ce roi, certes son époux, mais elle vient habillée avec les vêtements royaux. Mes frères et sœurs, ce que je veux retenir ici d'une manière typologique et qui va vous enseigner, c'est que en tant qu'Église, alléluia, je ne parle pas des bâtiments, une fois de plus je le rappelle, je parle de vous tous et de tous ceux que le Seigneur ajoutera en aussi grand nombre, ils seront sauvés, ici et ailleurs. L'Église, dit la Bible, c'est l'épouse. Je suis épouse en tant qu'Église. Nous sommes l'épouse de Christ. Et lorsqu'un membre de l'Église, qui est l'épouse de Christ, va prier, Lorsqu'un membre de l'Église, qui est l'épouse de Christ, lui, le roi des rois, lui, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, c'est pas n'importe qui. Quand je prie, je m'adresse pas, donc, j'insiste, à un étranger. Mais je m'adresse au Seigneur, au Dieu vivant et vrai. Je m'adresse à celui qui a dit que quand deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc le Seigneur est là ce matin. Mais faut-il encore être assez sensible pour ressentir sa présence et se laisser toucher, sinon on va ressortir de ce lieu comme on est rentré. Mais le Seigneur, quand il est quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Et quand nous allons nous adresser à lui, nous ne nous adressons pas à un étranger, mais au Seigneur, dont les sentiments sont comparables à ceux d'un époux, mais j'emploie le mot là, d'un époux parfait. Alléluia. C'est un époux parfait. Parce qu'il y a beaucoup d'époux et d'épouses sur la terre, ils ne sont pas du tout parfaits. Mais lui, il est parfait. Et dans Éphésiens, chapitre 5, verset 27, l'apôtre Paul enseigne cette église du 1er siècle, et nous avec, à Groyer, en disant qu'il va tout faire, il met tout en œuvre, tout est en œuvre, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible pour le jour de son avènement. Quand je m'approche du Seigneur, il va intervenir. Il le fait ce matin. Tout à l'heure, par les chants, l'adoration, la louange, la Sainte-Cène, par les dons spirituels, par maintenant la prédication, et il va continuer. Et là, il travaille. Le Seigneur Jésus travaille par le Saint-Esprit, travaille par les ministères dons de Christ, l'autorité que Dieu a installée dans l'Église. Hébreux 13, obéissez à vos conducteurs spirituels, c'est écrit. Je suis désolé, je parle pour ma propre paroisse, mais c'est écrit, il faut obéir à toute la parole. Et puis, il y a bien d'autres enseignements à ce sujet. Mais là, le Seigneur va, effectivement, Éphésiens 5, mais, et quand j'ai dit cela, je ne suis pas en dehors du contexte de ce que je vous enseigne, c'est que Éphésiens 4, il parle des ministères dons. C'est pour ça que je viens de dire cela. Ministère dons de Christ. Apôtre, même si je ne dis pas dans l'ordre, c'est pas grave. Apôtre, pasteur, docteur, enseignant, évangéliste, prophète. Ça, c'est les ministères dons de Christ. Après, il y a des charges, anciens, et diacres, et diaconesses. L'Église va être structurée. L'Église n'est pas un endroit où ça va à droite, à gauche, en haut, en bas, chacun fait la sienne. L'Église est un endroit où il y a la discipline de Dieu. C'est un endroit où il y a la structure voulue de Dieu. C'est un endroit qui est régi par la parole de Dieu, donc par le Seigneur, parce qu'il s'attache à sa parole et il est lui-même la parole. Et si le Seigneur a voulu qu'il y ait cette structure, ministère don de Christ, pour diriger l'Église, relisez le texte Éphésiens 4 par rapport au ministère don, pourquoi ils sont en place. Et vous allez vous rendre compte qu'ils sont utiles. Et puis, la charge des anciens également, la charge des diacres et des diaconesses. D'ailleurs, tout chrétien dans l'Église et chrétien devrait être des diacres et des diaconesses. Peut-être pas tous des anciens, mais au moins des diacres et des diaconesses. Relisez les épîtres de Paul à Timothée, à Tite, donc quand il en parle, pour montrer le cadre, pour montrer les principes du royaume des cieux, pour montrer que le Seigneur, est un Dieu merveilleux qui travaille pour que l'épouse, l'Église, elle soit sans rides. Sans tâche, sainte, la sanctification. J'ai fait mettre ce verset, Josué 3:5. J'ai enlevé demain parce que demain c'est déjà aujourd'hui. Donc, sanctifiez-vous, normalement il est marqué, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. C'est Josué qui s'adresse à Israël avant de rentrer dans le pays de Canaan. Et mes frères et sœurs, c'est mon mot d'ordre pour cette année, la sanctification. Quand il y a un défaut de sanctification et de foi, on l'a déjà vu le mardi soir par rapport à l'étude du livre des juges, alors il y a un déclin spirituel et si on ne se ressaisit pas, il y a une chute. Parce que l'Église, c'est un endroit où normalement je progresse, je grandis, je m'édifie dans l'amour, dans la vérité, dans la relation bénie, dans un état d'esprit qui plaît à Dieu. Et c'est certain que si mon cœur est verrouillé, fermé par toutes sortes de choses qui attristent le Saint-Esprit et qui ne sont pas en accord avec Dieu, je vais venir ici, je ne vais même pas arriver à ouvrir ma bouche. Je vais venir ici, je n'arriverai plus à prier. Je vais venir ici, je n'arriverai même plus à écouter la parole. Et le Seigneur n'arrive plus à travailler avec moi. Mais quand le Seigneur travaille, il travaille de la bonne manière. Il a des sentiments merveilleux. Il a une bonté extraordinaire. Il a des compassions qui nous dépassent. Alléluia. Il n'y a pas à douter que les sentiments du Seigneur puissent être autre chose que de l'amour et de la prévenance. Ce n'est pas autre chose que de l'amour et de la prévenance. Le roi va réagir à Cyrus à l'égard de la démarche d'Esther, son épouse. Mais déjà, il est interpellé, il est touché par le respect que cette femme a à son égard. Elle vient, je le répète, avec des habits royaux. Comment venons-nous dans la présence de Dieu? Comment entrons-nous le dimanche matin dans ce lieu de culte? En disant, il est 10h moins le quart, 10h, 10h et quart, certains arrivent à 10h30. Ils font ça sur leur lieu de travail, ils ne vont pas y rester longtemps. On se permet parfois avec Dieu des libertés. On se permet des libertés qu'on ne se permettrait pas, je viens de le dire, avec un patron dans une entreprise. De peur de perdre son emploi et de plus toucher son chèque de salaire à la fin du mois. Nous sommes ainsi les hommes. Dès qu'il y a quelque chose à obtenir, alors on est prêt à faire des efforts. Mais dites-moi, ce que nous devons obtenir quand on est dans la présence de Dieu, quand on arrive à 10h moins le quart pour le démarrage du culte, pour plaire à Dieu et être donc dans cette discipline spirituelle, c'est parce que le Seigneur veut nous offrir d'être sans rides, sans tache, ni rien de semblable, irrépréhensible, dans la sanctification, on en a besoin. Si je fais que passer ce matin et que je retourne chez moi et je vais à mes occupations la semaine sans me préoccuper de ces moments-là, de ces rassemblements, de ces temps de prière, de ma vie de prière personnelle, etc. Mais mes frères et sœurs, à quoi rime la vie chrétienne? Esther est une femme qui a une position et elle va donc ne pas perdre de vue cela. Et quand elle se présente devant Assuérus, elle vient avec l'attitude qu'il faut, avec la mentalité qu'il faut. Et derrière, le Seigneur va l'aider. Le roi va être, à cause de cela, prévenant. Il aurait pu faire le contraire, hein, qu'est-ce qu'elle veut. Prévenant. Il va manifester malgré tout de l'amour, puisqu'il lui dit, écoute, Esther, tout ce que tu me demanderas, je le dis simplement, hein, tout ce que tu me demanderas, je te le donne. Même si c'est la moitié du royaume, bah dites-moi, si ça c'est pas de l'amour et de la prévenance, mais ça c'est la démarche d'un roi. D'autant plus, intérieurement méchant. Mais le roi des rois, je le répète, son amour et sa prévenance n'ont rien à voir avec cela. Lui, il nous offre pas la moitié du royaume. Il nous offre la totalité du royaume. Mais mes frères et sœurs, comment c'est possible de donner à Dieu la moitié de ma vie? Comment c'est possible de lui donner la moitié de mon temps? Comment c'est possible de lui donner une petite moitié de ma louange et de mon adoration si je suis en forme et si le soleil brille? Il y a quelque chose qui ne va plus. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je peux répondre. Depuis que le Seigneur a changé ma vie, mon cœur est bouillant pour lui. Pourquoi? Non pas parce que je suis meilleur que vous, non pas parce que je suis le pasteur, parce que j'ai un ministère don. Non, parce que je me tiens comme vous devez vous tenir régulièrement devant la parole. Je me tiens, comme vous devez vous tenir, régulièrement dans la prière. Je me tiens, comme vous devez vous tenir, réellement à l'écoute de Dieu. Et de faire ce que Dieu me demande, parce que les hommes voudraient ce que Dieu me demande de faire. Quitte à m'attirer parfois certaines foudres, c'est pas grave, du moment que ce n'est pas celle de Dieu. Cet homme, c'est un homme qui a de l'amour et de la prévenance. Et la prévenance, c'est la démarche de quelqu'un qui est attentionné. Jésus l'est, roi des rois. Il est prévenant, attentionné. Il le sera toujours. Et à son image, qui que ce soit qui confesse le nom de Jésus, qui que ce soit qui confesse le nom de Jésus, vous confessez le nom de Jésus? Oui ou non? Alléluia. Oui. Je confesse. Mais on le chante en plus, hein? Je confesse que Jésus est Seigneur, etc. On le chante. C'est arrivé déjà de le chanter. Vous l'avez chanté. Ça va arriver encore que nous le fassions chanter avec les frères qui conduisent les chants. Mais quand vous chantez « Je confesse que Jésus est Seigneur », qui c'est qui entend? Le Seigneur. Et puis le diable. Il dit « Ah bon, il confesse que Jésus est Seigneur ?» On va voir ça. Eh oui, il est un lion rugissant, je vous le rappelle à chaque fois, cherchant qui il dévorera. Il faut se soumettre à Dieu. Donc, il faut suivre le même chemin que Jésus. Celui qui confesse que Jésus est Seigneur, il suit sa seigneurie. Seigneur, ça veut dire maître. Il est le maître de ma vie. Depuis que Jésus, dit un petit chant, est devenu le maître de ma vie, tout a changé. La paix, la joie, elle ne me quitte pas. Alléluia! Et des fois, je me demande si la paix, la joie n'a pas quitté certains cœurs de certains chrétiens. Je me pose la question. Et pourtant, depuis que Jésus est devenu le maître de ma vie, s'il est toujours le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie, je confesse que Jésus est Seigneur, alors la paix, la joie, malgré les combats, les luttes et les oppositions, elle est là. Elle se renouvelle. Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie. Quand je confesse le nom de Jésus, je dois suivre le même chemin que lui. Vous savez, un jour, c'est un médecin qui a dit à son patient, il a dit ceci, écoutez monsieur, votre santé n'est pas menacée parce que vous mangez, mais elle est menacée par ce qui vous mange. Je répète. J'ai l'impression que vous êtes très fatigué, vous avez passé une mauvaise nuit. Un jour, un médecin dit à son patient, votre santé n'est pas menacée par ce que vous mangez. Quand on dit ça à un Français, il se réjouit. Mais elle est menacée par ce qui vous mange. C'est mieux la deuxième fois? Et qu'est-ce que c'est qui peut manger nos cœurs? La liste est longue, hein? Qu'est-ce que c'est qui peut manger nos cœurs? Ou vouloir à nouveau manger mon cœur, manger mon âme, manger ma vie intérieure? Qu'est-ce que c'est? Je pourrais citer la colère. Je pourrais citer la rancune. Je pourrais citer l'amertume. Je pourrais citer tellement d'autres choses. Je prends un exemple dans la parole de Dieu, je quitte un petit peu Esther, je me promène un peu dans l'écriture, dans le contexte biblique, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je vais dans le livre des Actes des Apôtres, me permet de citer cet exemple. Et quand je lis dans le livre des Actes des Apôtres, cette église qui va naître par le ministère des apôtres du premier siècle, l'église, je la cite, l'église de la ville d'Antioche, bien c'est une belle illustration, un bel exemple. Cette église d'Antioche, si vous lisez bien, acte 8, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas née dans un contexte facile. Elle est née dans un contexte difficile. Elle est née suite à la persécution de ce fameux Saul de Tarse, à Jérusalem. Et vous savez que suite à cette persécution, sauf les apôtres qui vont rester à Jérusalem, mais suite à cette persécution, les croyants vont se disperser. Alléluia pour la dispersion à ce moment-là, parce que sinon ils seraient tous restés concentrés à Jérusalem. Mais cette dispersion est devenue une bénédiction parce que, en définitive, ils vont pouvoir transmettre l'évangile, transmettre la réalité de leur foi en Jésus-Christ. Dieu, de mal, il le change en bien. Il y a une persécution, de cette persécution va se multiplier l'Église. D'ailleurs, ce n'est pas mauvais, les persécutions. J'ai remarqué que quand il y a les persécutions, c'est là que l'Église est vivante. Quand tout va bien, que ça roule, vous savez, c'est tranquille, l'Église, elle s'endort. Hein. Et l'histoire de l'Église, si vous prenez de très bons livres sur l'histoire de l'Église, et je vous l'ai déjà dit, si vous aimez lire, venez me voir, je vous donnerai le titre de très bons livres sur l'histoire de l'Église, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des phases dans l'histoire de l'Église. Et quand l'Église est persécutée, elle est réveillée, elle est à fond. Et quand la persécution s'estompe et commence à diminuer, ça ne veut pas dire qu'on demande la persécution, mais quand elle commence à diminuer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle s'endort. Elle s'éteint. Et parfois même, il y a des églises qui se ferment. Voyez-vous la folie meurtrière de, pour rester sur cet exemple de l'église d'Antioche, tout d'abord, la folie meurtrière de Saul de Tarse s'est manifestée comment? Premièrement, par la lapidation d'Étienne, parce qu'il était là, hein, il a joint son suffrage aux autres, hein, tout en gardant les vêtements, il n'a peut-être pas jeté de cailloux, mais en gardant les vêtements, il a donné son accord, hein, il était d'accord avec eux. Et puis, ensuite, il y a eu plusieurs emprisonnements poussant des chrétiens de Jérusalem, terrifiés, donc je l'ai dit, à se disperser et à donner naissance à cette fameuse église d'Antioche. Les années vont passer. Parce que nous, quand on lit la Bible, quand je passe du chapitre 8, Actes, au chapitre 15, il me faut exactement, même en lisant tranquillement, il me faut tout simplement entre 5 et 10 minutes. Mais là, du chapitre 8 au chapitre 15, il ne s'est pas écoulé 10 minutes. Il s'est écoulé quelques années. Et quand vous allez, chapitre 11, donc vous allez vous rendre compte que les années, effectivement, sont passées et que, acte 11, l'ancien bourreau, c'est-à-dire Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, devenu un disciple de Christ, devenu un homme rajouté comme pierre vivante à l'édifice spirituel, à l'église, à l'épouse de Jésus, qu'il veut rendre sainte, pure, alléluia, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, alléluia, pour le jour de son avènement, et cet homme, l'apôtre Paul, va enseigner l'église d'Antioche. Et pourquoi je cite cet exemple? C'est parce que nous pouvons, en lisant cela, entre le chapitre 8, si vous préférez chapitre 7, et le chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres, nous pouvons avoir la difficulté pour certains à comprendre l'amour de cette Église et cette capacité de pardonner et de manifester de la prévenance à l'égard d'un homme qui les a poussés à se disperser. Certes, cette Église a été ouverte, mais lui, il va venir l'enseigner. Ils auraient pu après tout réagir et dire « mais enfin, c'est lui qui nous a persécutés, c'est lui qui a fait du mal ». Peut-être même il y avait dans cette église, je ne sais, un père, une mère, je ne sais quoi, qui encore d'une famille, qui ont vu un de leurs enfants, un de leurs proches, être amené en prison à cause de leur foi par cet homme Saul de Tarse. Et là, ils ont devant lui un homme qui est disciple du Seigneur. Ils auraient pu dire, bien, nous on s'en va, on ne l'écoute pas. Nous on s'en va, on ne veut pas son enseignement. Nous on s'en va, parce que autrefois il était comme cela. Non, ces hommes et ces femmes qui sont des disciples de Christ, une église vivante, une église qui aime, une église qui est empreinte de l'amour de Dieu, ils vont écouter cet homme et le bénir. C'est ça, être de Christ. Et d'ailleurs, c'est là que l'on a pour la première fois appelé les disciples de Christ des chrétiens. C'était une moquerie, c'était un colibé. Mais quelque part, ils étaient en train de dire une vérité. Quand ils disaient « ce sont des chrétiens », ils voulaient dire tout simplement, pour se moquer, « ce sont des petits Christ ». Amen ! Eh bien qu'on m'appelle chrétien, j'en suis heureux et c'est un éloge. Petit Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont le suivre, pas de loin comme Pierre qui a fini par le renier, mais qui vont le suivre à proximité et de dire « Seigneur, je te lâcherai pas, je te perds pas de vue, je reste collé à toi ». Et quand c'est comme cela, mes frères et sœurs, alors comme l'église d'Antioche, nos frères et sœurs de cette époque-là, qui vivaient pourtant des contextes difficiles, nous allons être capables toujours de pardonner. Pas des pardons de pacotille, pardon biblique. J'en parlerai, je l'ai déjà dit d'ici quelque temps. Nous serons capables d'aimer vraiment et d'être prévenants. Et je reviens à Esther. Elle s'est présentée dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, il est écrit que le roi, nous l'avons lu, siégeait sur son trône, et je prends la traduction, la colombe, il siégeait sur son trône royal dans le palais face à l'entrée de l'édifice. Pourquoi je souligne ça? Il siégeait sur son trône royal dans le palais, Assuérus, quand elle vient, quand elle se présente. Elle se présente devant le roi qui est sur son trône. Et il convient ici de rappeler que Dieu est assis sur son trône. Et l'Écriture nous dit qu'il est assis sur son trône et qu'il règne éternellement et à toujours. Son trône, le trône de Dieu, pas celui d'Assuérus, hein, mais le trône de Dieu est inébranlable. Pourquoi? Parce que le trône de Dieu, pas celui d'Assuérus, il est fondé sur la justice. Ce qui marque encore une très grande donc, différence entre Dieu et cet homme, ce monarque Assuérus. La justice. Quel merveilleux mot. Je ne parle pas de ce mot selon les hommes. Je parle de ce mot selon la Bible. Parce que la justice selon les hommes, ça ne veut pas dire grand-chose, excusez-moi du peu. Mais selon la Bible, selon Dieu, nous devons avoir ce fondement qu'est la justice de Dieu. Nous devons donc ensuite pratiquer la justice de Dieu. Il n'est pas dit d'avoir comme fondement du sentimentalisme. La justice de Dieu, elle est équilibrée. Elle peut punir, mais elle peut sauver. Lisez bien, réfléchissez, méditez. La justice de Dieu, c'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire. Mais elle est parfaitement accomplie dans la personne de Jésus-Christ pour sauver. Mais celui qui ne reçoit pas Jésus-Christ, il ne s'appuie pas sur la justice de Dieu. Donc il reste perdu, condamné. Mais quand nous avons reçu Jésus, ce monarque éternel, ce roi des rois, ce seigneur des seigneurs parfaits, notre époux, alors nous choisissons tous les jours d'être fondés spirituellement sur la justice de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu. Nous la pratiquons. Cela signifie quoi de pratiquer la justice de Dieu? Cela signifie nous engager à faire ce qui est juste. Cela signifie de nous occuper de la vérité qui vient de Dieu en Christ, plutôt que de notre intérêt personnel ou des opinions du monde qui nous trompent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, mes frères et sœurs, vous avez besoin de vêtements, il va vous les donner. Vous avez besoin d'un travail, il va vous le donner parce que vous allez le prier. Vous avez besoin d'autre chose, mais cherchez premièrement. N'inversez pas les valeurs, s'il vous plaît, parce que, après tout, si vous le faites, vous êtes en train de désobéir à la parole. C'est pas à moi que vous désobéissez. Hein. C'est pas moi que vous servez. Hein. C'est Dieu. Et c'est lui qui vous dirige par sa parole et son esprit, parce que le Saint-Esprit nous ramène dans la parole. Donc, après, c'est à vous de voir. Mais recherchez premièrement le royaume. Et là, je pourrais traduire ça comme cela aussi, c'est-à-dire brûler du désir. On a chanté « J'ai soif ». Matthieu nous l'a fait chanter. « J'ai soif de ta présence, j'ai soif de t'entendre, j'ai soif de toi, Seigneur. » C'est ça, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire brûler du désir de lui plaire et lui obéir. Le monde ne voit pas que Dieu règne. Il ne voit pas le monde. Il ne veut pas de son autorité. Et quand Assuérus, justement, par rapport à cela, va tendre le sceptre, attendre le sceptre. Ça veut dire, je te tends la réalité de mon autorité. Assuérus a autorité. Je le touche. Je touche l'autorité. Soit elle me tue, soit elle me fait vivre. La Bible nous dit que le sceptre de Dieu, c'est un sceptre d'équité. Amen. Vous pouvez chercher dans votre Bible. Un sceptre d'équité. Celui d'Assyrus, puisque certains l'ont touché, il a dit, tu vas mourir. Ce n'est pas d'équité, ça. Mais le sceptre de Dieu est un sceptre d'équité. Et quand je m'approche de son autorité, parce qu'il a toute autorité, dans le ciel et sur la terre, en tant que croyant, en tant que disciple de Christ, en tant que chrétien, nous nous soumettons à lui dans l'amour. Nous nous soumettons à lui dans la joie. Et à l'image d'Esther, celui qui s'approche de Dieu par la foi, donc en Jésus-Christ, pénètre, non pas, eh bien, un petit peu, quelques doigts de pied, ou le petit doigt de pied, un petit peu, là, dans la présence de Dieu. La Bible me dit que quand je m'approche de Dieu, j'entre comme Esther dans la cour intérieure du roi. Alléluia! Je reste pas en deçà, je reste pas dehors. Je dis, je vais surtout pas aller plus loin. Non, il faut aller plus loin. Il faut un peu plus. Il faut que j'entre un peu plus. Alléluia! Il y a ceux qui resteront à l'extérieur du temple. Vous savez pourquoi ils restaient à l'extérieur du temple? Je vais prendre un exemple. Et je le trouve dans Acte 3, parce qu'ils avaient une infirmité, entre autres. Et selon la loi de Dieu, selon le Lévitique, tout homme qui avait un défaut corporel, tout homme qui était aveugle, tout homme qui était boiteux, il y avait même ce détail, tout homme qui avait un nez camu ou un membre allongé, un défaut corporel, selon le Lévitique, chapitre 21, il ne pouvait pas entrer dans le temple. Oui, vous pouvez chercher. Et méditer là-dessus. Ne cherchez pas pour savoir si ce que je vous dis c'est vrai, mais cherchez surtout pour méditer cela. Parce que, après tout, celui qui est en Christ, il est devenu, oui ou non, nouvelle création. Enfin, je ne sais pas moi, hein. Parce que c'est plus comme ça aujourd'hui. J'ai loupé quelque chose peut-être. Aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi, peut-être, c'est permis. Non. Tout homme qui avait un défaut. Et acte 3, l'infirme, qui est devant la belle porte. Je tiens à vous préciser, selon comment était fait le temple à ce moment-là. On a des détails, sur le plan archéologique, etc., etc. Enfin, après, il faut fouiller, bien sûr. Mais cette belle, pourquoi elle est appelée ainsi? La belle porte du temple. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous avez déjà fouillé pour comprendre cela? Ben, si c'est pas le cas, je vais vous aider. La belle porte du temple, cette issue du temple, elle était, cette porte en bronze, elle était, écoutez bien, incrustée d'or. Elle était incrustée d'argent. Et elle se trouvait entre le parvis des païens et celui des femmes. Et puis il y avait aussi le parvis d'Israël dans lequel se rendaient les hommes pour pouvoir participer aux offrandes et aux sacrifices. C'était bien compartimenté, hein. D'ailleurs, quand vous allez dans une synagogue, c'est comme cela. Quand vous allez dans une mosquée, c'est comme ça. Je ne vais pas dire que je vais faire comme ça à Groyer. C'est là la différence. Avec tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il n'y a point d'exception de personne. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Non, nous sommes tous, eh bien, unis par le sang précieux de Jésus et dans le nom de Jésus. C'est ça la force de l'Église. Mais malgré tout, à ce moment-là, c'était comme ça, c'était très compartimenté. Et pour des raisons légales, eh bien, l'impotent ne peut pas aller au-delà de cette belle porte. C'est-à-dire qu'il contemplait la porte, mais il n'entrait pas dans la cour intérieure. Et mes frères et sœurs, on peut rester à l'extérieur et dire, mais elle est merveilleuse la porte, je touche la porte, j'ai un contact avec la porte, elle est magnifique. Oui, mais Jésus a dit ceci, je suis la porte. Mais il n'a pas dit seulement, je suis la porte, et puis parce que vous avez des défauts intérieurs, spirituels, il faut que ça change, il faut qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait des progrès spirituels. Et là, de dire, eh bien, vous restez dehors parce que vous ne pouvez plus entrer à cause de cela. Le Seigneur dit, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Est-ce que vous voulez que je vous dise d'autres? Parce que je vais m'arrêter là, de toute façon. Et je continuerai dimanche prochain. Mais je rajouterai juste ceci pour ma conclusion. Et je le rappellerai dimanche prochain en introduction, par rapport à cette vérité sur laquelle je m'arrête ce matin. Cette disposition, donc, j'en ai parlé, mosaïque. Quand je dis mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse. Elle est profondément typologique, donc pour nous, nous voulons de le dire. Aucun handicap, écoutez bien, et je rappellerai en introduction dimanche prochain, aucun handicap physique ne peut interdire l'accès à Dieu aujourd'hui. Et quand vous vous interdisez un accès dans la présence de Dieu, ça veut dire que vous vous reprochez certaines choses, et il faut laisser le Seigneur vous purifier, dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu peux faire ? Je vais te pardonner, mais entre, viens, je te purifie, je change ta vie. Tu veux changer certaines choses, ça va pas, là. Je l'ai vu, je te l'ai dit, je te l'ai montré, je te le montre le jour, la nuit. Tu es travaillé par le Saint-Esprit, tu es travaillé par la parole. Alors maintenant, laisse-moi faire pour que tu entres, pour que tu restes pas dehors. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la bénédiction de Dieu. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans l'épanouissement spirituel. Sanctifie-toi encore, un peu plus, à part pour Dieu. Serre-le de tout ton cœur. Serre-le avec joie. Loue-le, adore-le, prie-le. Ne te prive pas, c'est sans modération. Moi, j'aime ce chant, vous savez, je suis marqué par les chants parce qu'ils sont tirés très souvent de la parole. Il est un chant que vous chantez aussi, qu'on chante aussi, qui dit ceci. Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie. Quand règne son esprit, c'est la liberté. Il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. Dans la maison de Dieu, je suis bien. On dirait qu'il est bizarre ce pasteur. Le péché constituera toujours un mur. Donc je rappelle que ce qui est dit là est dédié à ceux qui ne peuvent entrer dans les parvis de Dieu. Parce que, je l'ai dit, ils souffrent d'handicap, d'atrophie. Ils sont comme bloqués devant une porte qu'ils ne peuvent franchir. Pourtant, vous ressentez le besoin de franchir une nouvelle étape de la foi. Vous voulez aller plus loin avec Jésus. La porte du salut est ouverte. Celle du baptême dans le Saint-Esprit est ouverte. Celle des dons spirituels est ouverte. Elle peut vous sembler de bronze. Le bronze dans la Bible nous parle du jugement. Mais Jésus a pris sur lui le jugement, alléluia, à cause de nos péchés, c'est lui qui l'a fait et qui le fait encore aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, je verrai une deuxième partie sur ce point-là, sur ces versets, je n'ai pas fini. Chapitre 5, dimanche prochain, Dieu voulant. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Je vais dire, on va prier quelques minutes le Seigneur. J'ai pas dit, je vais rendre grâce à Dieu. Je veux qu'on prie quelques instants. C'est-à-dire que j'ai prêché la parole selon ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et je pense que c'est important, mes frères et sœurs, à vous d'en juger, de laisser quelques minutes ce qui a été dit travailler mon cœur par le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on y réfléchisse quelques instants. Et je vais vous laisser maintenant quelques minutes le soin, avec l'aide du Saint-Esprit, de réfléchir à ces points qui vous ont interpellé. C'est peut-être pas toute la prédication. Il y a peut-être un point, deux points, trois points qui vous ont touché. J'aimerais que vous laissiez le Saint-Esprit vous les rappeler pour vivre ce que Dieu vous propose de vivre. Maintenant. Amen. Seigneur, je veux tout simplement te demander que ce que tu m'as donné d'apporter ce matin dans cette première partie de ce chapitre 5 du livre d'Esther, ce témoignage puisse, dans les points, ou même serait-ce un point, qui aurait touché quelqu'un, interpellé quelqu'un de cet auditoire que tu connais. Je te prie au nom de Jésus pour qu'il y ait des effets bénis, des effets merveilleux. Peut-être un célibataire, un couple, une famille, je ne sais. Seigneur Jésus, s'il te plaît, puisque tu as fait cette promesse que ta parole ne reviendra jamais à toi sans avoir produit son effet, accompli tes desseins, exécuté ta volonté. Te prions Jésus, je te prie, en tant que ton serviteur, comme d'autres de mes collègues dans les églises où ils te servent, qu'il en soit ainsi. Le thème qui a été développé lors de notre dernier congrès, Seigneur, c'est une église en bonne santé. Et je prie pour que cette église, dans le courant de cette troisième année que nous vivons avec eux, soit une église qui aille de plus en plus vers une excellente santé, et d'autres en France, pour que notre pays soit bouleversé par nos églises, parce que Jésus est le premier servi, aimé, adoré, loué. Parce que l'église est un endroit où il y a beaucoup de joie d'y venir. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alléluia. Dieu bénisse. Amen. Amen.